Chers amis, bonsoir. Ce soir, pour ce nouveau rendez-vous de Visage d'Église, nous recevons Marie-Odile Lacaze, qui est une des chevilles ouvrières de l'événement qui a eu lieu ce dimanche 15 octobre, à savoir la fête de Saint-Géraud, fête qui a eu lieu à Saint-Cirgue. Alors peut-être, Marie-Odile, tout de suite, nous redire qui était Saint-Géraud.
Oui, alors bonsoir Pascal et merci de mettre ce titre « Visage d'église » parce que Saint-Géraud est un visage très intéressant, un visage très humble et doux, d'après ce qu'en disent les vitraux. Et qui était Saint-Géraud? Eh bien, on va commencer par dire qu'il n'était pas prêtre, il n'était pas clerc, il n'était pas moine. C'est un laïc. Alors à son époque, on n'aurait pas dit un laïc, mais même pour nous, revisiter, c'est un laïc. Qui était seigneur d'un comté, pas exactement un comté, mais enfin un grand territoire qui allait du Puy-Grioux à Poustomie. Alors si vous n'êtes jamais allé à Poustomie, c'est au sud d'Aveyron, après Belmont. Voilà, donc ça fait quand même un ensemble.
Et alors pourquoi fêter Saint-Géraud à Saint-Cirgue?
Saint-Géraud est mort à Saint-Cirgue en 909 d'une manière un petit peu extraordinaire qui nous a frappé, nous, notre génération quand même. Parce que nous avions à Saint-Cirgue un prêtre aveugle des années 50 jusqu'à 1978. Et Saint-Géraud avait un château à Saint-Cirgue. C'était la chapelle qu'il préférait, la chapelle du château de Saint-Cirgue, qui se nommait Césardiac. Et donc, 1000 ans avant ce prêtre aveugle que nous avons bien connu, eh bien, Saint-Géraud était en état de cécité. Et il a passé 7 ans en état de cécité à Saint-Cirgue. Il y est mort le 13 octobre 909.
Pourquoi est-il devenu saint?
Alors Saint-Géraud est devenu saint, non point par les procédures ou les procédés, je serai prudente, qu'on emploie actuellement, mais par le procédé de l'époque, c'est-à-dire que les fidèles, le peuple qui l'aimait, ont demandé à ce qu'il soit saint. Donc il a été déclaré saint. Et bien sûr, s'il fallait refaire sa, pas sa béatification, mais sa sanctification, on trouverait beaucoup de miracles. Il était juste, généreux. Il avait quand même des particularités. Hein. Je vais en citer une qui m'a beaucoup frappée. Il avait mené un combat contre le roi, par rapport au roi de France. Il voulait rester absolument libre pour avantager les serfs. Il en libérait beaucoup de serfs. Et pour un combat, eh bien, il avait eu une astuce. Une fois, il a fait combattre ses hommes avec l'épée à l'envers. L'effet de sidération dans le camp ennemi a fait que Saint-Géraud gagnait la bataille. Voilà, il avait des astuces comme ça. Il était assez pacifique et il était aussi pour libérer les prisonniers, puisque quand il rendait la justice, eh bien, il donnait une peine, mettons, il fallait aller dans les bois faire sa petite pénitence, là, son petit travail de rattrapage, j'allais dire. Et bien sûr, il savait très bien que les personnes allaient en profiter pour repartir libre, partir directement de dans le bois. Il le savait et il considérait que la clémence, que donner par-dessus la faute, c'était mieux que de punir et de faire une surenchère de juridiction, de punition, de brimade.
Et depuis quand fête-t-on Saint-Géraud à Saint-Cirgue?
Alors il a toujours été fêté, sauf des années 78 où le prêtre aveugle est mort. À 2009, nous avons un petit peu sonné le rappel parce qu'il était mort en 909. Les mathématiques faisant que ça faisait 1100 ans, on s'est dit il faut faire quelque chose. Et on s'est aperçu qu'il avait bénéficié à l'envers, si vous voulez, il avait bénéficié un petit peu à l'envers d'une époque où on a un petit peu crié à la superstition, parce qu'il y a un rocher à Saint-Cirque. Le rocher, ou un petit rocher, dans un petit jardin, où Saint-Géraud s'agenouillait. Et lorsqu'il n'était pas aveugle, et lorsque le paysage était ouvert davantage qu'il ne l'est maintenant, effectivement, on voit jusqu'au puits Grioux, et on voit au moins jusqu'à Rodez, et dans le cœur, on peut voir jusqu'à Poustomie, ça c'est sûr, sauf que Poustomie, c'est un petit peu en bas. Mais on peut voir, il pouvait voir sa seigneurie. Voilà. Donc il y a eu une antimode de fêter Saint-Géraud, mais qui n'est pas du tout à juger hors du temps. Hein. Ça a été plus que pour Saint-Géraud, ça a été pour beaucoup d'habitudes. On a eu besoin de questionner un petit peu ces comportements qu'on avait, d'aller en procession, de faire la prière, de réciter le chapelet, de ne pas savoir ce qu'on racontait parce qu'on le disait en latin. Alors on a fait un petit peu de nettoyage et finalement, hier, ce que nous avons vécu, c'était vraiment beaucoup de ferveur. Renettoyer, j'allais dire.
Alors justement, on allait y venir, cette fête de Saint-Géraud à Saint-Cyr, comment ça se passe?
Alors, nous essayons d'attendre que le 13 octobre soit passé, quand nous pouvons. Nous essayons de respecter la vie du village, parce qu'il y a une association socio-culturelle et sportive qui a une trentaine d'années, qui juste le dimanche après la Saint-Géraud, fait un troc plante, fait un vide-grenier, qui est une activité très très intéressante, mais qui est fixée. Et qui a été fixé pendant ce temps où la Saint-Géraud n'était pas fêtée. Donc nous faisons du jonglage, c'est-à-dire qu'il y a une messe juste après le 13 octobre, une messe du dimanche, qui est une messe ordinaire, c'est celle que nous avons faite hier. Et puis après nous essayons de faire un temps fort. Alors une fête de Saint-Géraud qui en fait est un temps fort sur un thème. Donc nous avons essayé de voir tous les lieux, une année ce furent tous les lieux où Saint-Géraud est fêté. Et nous avons trouvé vraiment dans le sud-ouest et même au-delà des Alpes, vraiment une grande ferveur pour Saint-Géraud. Nous avons été très étonnés, nous avons fait la cartographie de Saint-Géraud.
Par exemple, je vous coupe Marie-Odile, mais par exemple, parce que je suis sûr que de nombreux auditeurs ne savent pas qu'en fait la Saint-Géraud d'une part à Saint-Cyr, ne savent pas qui était Saint-Géraud, donc elle se fête où, ailleurs?
Alors je vais aller au centre, le centre, c'est Aurillac, fondation de l'abbaye d'Aurillac, où Saint-Géraud donc, a mis en place, a fait œuvre d'éducation, dans un temps, alors vous reprendrez l'histoire, dans les années 900, c'était assez obscurantiste et assez peu évolué. Hein. On n'avait pas encore eu le pape Gerbert et l'astronomie, les mathématiques et tout ça. Donc il a vraiment décidé que l'éducation, ça serait important. Il a fondé l'abbaye d'Aurillac. Et ce qui peut être surprenant, c'est que vous allez au-dessus de la retenue de Serre-Ponçon, dans les Alpes, Pascal, par exemple, parce que quand même, c'est... Voilà. Et puis, vous tombez sur Aspre-sur-Buèche, la Fontvineuse. Vous vous penchez pour voir quelle est cette Fontvineuse, et qu'est-ce que vous découvrez? Saint-Géraud. Saint-Géraud est fêté là. On peut aussi aller un petit peu plus près, puisque nous avons des acquaintances avec le père François Gerfaut, qui maintenant est nommé à Fumel. Eh bien, il est nommé à l'église Saint-Géraud. Il y a un petit prieuré, le prieuré de Mont-Saint-Pron, où Saint-Géraud est fêté. Il y a aussi, bien sûr, les reliques de Saint-Géraud à l'abbaye d'Ancalcate. Et pour trouver tout cela, puisque notre temps d'antenne est compté, j'ai près de moi le livre de Chanoine Joubert, écrit en 1968, qui n'est plus édité. Cependant, si vous le voulez, en téléphonant à Radio Présence au 05 65 348 348, vous pouvez obtenir de la bibliographie, parce que la bibliographie faite par Odon de Cluny en 925, c'est-à-dire très peu de temps après la mort de Saint-Géraud en 909, Odon de Cluny, qui n'est pas n'importe qui, quand on dit Cluny bien sûr, a établi, non seulement il a établi la bibliographie de Saint-Géraud, mais en plus il a donné, on dirait de nos jours, l'épistémologie, c'est-à-dire il a donné sa méthode de travail pour montrer qu'il avait vraiment bien interrogé un panel de gens variés, sûrs et qui avaient côtoyé Géraud.
Alors Marie-Dy, je vous ai coupé, mais on continue sur cette journée du 15 octobre 2017 à Saint-Cyr. Vous parliez de troc de plantes, d'associations locales qui est bien implantée. Et cette fête est associée, la fête de Saint-Géraud est associée à ce temps fort de la commune.
Non, pas du tout. Alors c'est là le problème.
Alors pas du tout.
Pas du tout. Et cette année, en 2017, nous avons créé une nouveauté. Nous les avons juxtaposées et nous avons introduit le chant d'entrée, la messe par rapport à la fête de Saint-Géraud, avec un choral type allemand, hein, un choral de Bach, une musique très connue dans les églises, qui célébrait la nature. Pour faire le lien avec cette association, qui elle nous a permis de manger sous chapiteau avec eux, et nous avons essayé de faire une juxtaposition qui n'est pas encore au point, parce qu'il va falloir qu'on trouve nos horaires pour arriver à ce que tout le monde puisse aller partout, puisque, si vous voulez, la messe pour Saint-Géraud a été en parallèle avec une conférence sur le miel et sur la naturopathie qui devait être fort intéressante, qui fait que les personnes n'ont pas pu aller partout. Mais Nous allons quand même vivre un temps fort sur Saint-Girons. Cette année, le thème, c'est le rocher. Et donc, nous aurons sûrement une conférence sur le rocher dans la Bible. Et nous allons essayer de regarder un petit peu ce que nous pouvons faire d'intéressant par rapport à ce rocher.
Alors, juste avant de terminer, peut-être, quel sens ça a aujourd'hui, en 2017, de fêter Saint-Girons ?
Alors, c'est très intéressant parce qu'un homme de paix, je pense que je ne vais pas développer, mais c'est quand même intéressant. Un homme libre qui veut garder son indépendance vis-à-vis du pouvoir du roi, qui était un pouvoir central dont je ne connais pas du tout quelle était la si vraiment c'était favorable ou pas, mais enfin il s'est bien gardé, il a voulu rester libre. Quelqu'un qui a l'idée de libérer les serfs, c'est-à-dire de les défaire de leurs conditions d'esclaves, c'est quand même intéressant. Quelqu'un qui a une idée de commuer une peine de mort ou de torture, parce qu'à l'époque ce n'était pas simplement un emprisonnement, en liberté, en rendant une chance aux personnes, c'est intéressant. Et alors un homme de prière, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup été conseillé et lié à l'évêque de Cahors de l'époque, donc les évêques de Cahors ont un prédécesseur qui est aussi très intéressant, voulant se donner à la vie monastique, à la prière, il est allé trouver l'évêque de Cahors et c'était son ami. Et cet évêque de Cahors a fait quelque chose que je trouve absolument extraordinaire. Il lui a dit, en gros, il lui a dit, mon frère ou mon fils, vous êtes vraiment là-dedans, vous êtes vraiment dans la vie de prière, vous avez vraiment tout compris. Et si vous voulez que ça serve à quelque chose, restez sécularisé, restez dans votre siècle, restez dans les affaires. Vous êtes seigneur, vos parents sont décédés, vous êtes jeune. Vous avez du talent, vous montez à cheval, vous connaissez beaucoup de sciences et de littérature. Restez à faire votre travail, là vous êtes, ça ne vous empêche pas de prier. Et pour le lui montrer, il lui a administré la tonsure et il lui a dit, vous pouvez faire vos prières de moine, mais restez seigneur de ce comté.
Merci Marie-Odile pour ce visage d'église Saint-Girons fêté dans notre Ségala Lotois à Saint-Cirgue. Donc rendez-vous en 2018.
Avant, nous allons faire notre temps fort, le rocher dans la Bible, et nous allons inviter, comme d'habitude, quand nous faisons le temps fort, Monseigneur Turini est venu 5 fois, Monseigneur Camiade est déjà venu 2 fois, et nous allons continuer.
Eh bien écoutez, belle fête de Saint-Girons pour celle que vous avez vécue, bien évidemment, ce 15 octobre, et puis pour tous ces événements qui sont à venir.
Voilà, nous avons du travail. Merci Pascal.
Merci à vous.